VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Raissa Girondin, votre compagnie, il est 19h30 en temps universel, la même heure à Dakar, Conakry, Abidjan. Bonsoir, voici les titres. Au Cameroun, 28 candidats déclarés pour la présidentielle du 7 octobre prochain. En République démocratique du Congo, des membres de la Lucha arrêtés à Goma. Ils manifestaient pour la libération de pêcheurs congolais en Ouganda. Dans la partie magazine, à moins de 10 jours des élections, le président malien sortant Ibeka s'est rendu dans la ville de Kidal.
C'est au moment de battre campagne qu'il prend tous les risques pour aller faire campagne à Kidal. Je suis très déçu par rapport à son déplacement.
Donald Trump invite Vladimir Poutine à Washington, une bonne chose selon la chancelière allemande Angela Merkel. Et dans la Minute Éco, reprise du travail chez Total après 11 jours de grève au Gabon, Enema rassure qu'il reste au PSG. On verra ça dans la page sport, mais tout d'abord, le journal. Et elle a eu une élection présidentielle au Cameroun du 7 octobre prochain. 28 candidats ont déposé un dossier auprès d'Elecam, l'organisme chargé de l'organisation du scrutin présidentiel, où Paul Biya est donné favori, malgré 35 ans passés au pouvoir. Nicolas Pinault nous en dit plus.
Oui, ces candidats avaient jusqu'à jeudi minuit pour déposer leur dossier comprenant une caution de 30 millions de francs CFA. Sans surprise, le président sortant Paul Biya est en piste pour un septième mandat. À 85 ans, l'homme fort de Yaoundé peut compter sur le soutien de 20 partis se réclamant de l'opposition qui affirme qu'il incarne l'assurance tout risque pour le Cameroun. En face, on note les candidatures de deux opposants, Garga Amanadji et Adamu Ndamjoya, deux candidats déjà présents lors de la dernière présidentielle de 2011. À noter aussi Joshua Ossi, investi par le Social Democratic Front, le SDF, principal parti d'opposition, Maurice Kamto, ex-ministre et président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, Dakere Mouna, célèbre avocat, et de Cabral Libi, un jeune leader qui mise sur sa popularité dans les médias et sur les réseaux sociaux. Les opposants jugent chaotique le bilan de M. Biya à la tête du pays, lui prêtant l'intention de vouloir s'éterniser au pouvoir. La présidentielle du 7 octobre se tiendra dans un contexte marqué par un conflit qui prend de plus en plus d'ampleur dans les régions anglophones, où plus de 80 policiers et militaires y ont été tués depuis le début de la crise, fin 2016.
En Côte d'Ivoire, le parti démocratique PDCI a radié 8 de ses cadres. Ils étaient favorables au parti unifié, lancé par le président ivoirien Alassane Ouattara. Le président du PDCI, Henri Conan Bédié, s'était prononcé contre l'adhésion au RHDP, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, qui ambitionnait initialement de réunir le PDCI et le RDR, le Rassemblement des Républicains, la formation du président Ouattara. En République démocratique du Congo, une dizaine de jeunes du mouvement citoyen Lucha ont été arrêtés à Goma alors qu'ils manifestaient. Ils demandent l'implication des autorités politiques du pays pour obtenir la libération de 100 pêcheurs congolais arrêtés et condamnés par la justice ougandaise. Charlie Kasereka, correspondant de VOA Africa Goma, nous en dit plus.
Calico à la main porta les messages. Nous demandons la libération de nos pêcheurs arrêtés en Ouganda. Peut-on lire sur ces cartons portés par ces jeunes militants de la Lucha? Prudence Tachigué, militante.
Nous allons jusqu'à la terre au ciel pour demander la libération totale des pêcheurs qui traversent le lac Édouard.
Après l'arrestation de ces pêcheurs, le gouvernement congolais avait dépêché une délégation à Kampala pour discuter avec les autorités ougandaises des pourparlers qui n'avaient rien produit. D'où les 6 pêcheurs arrêtés avec leurs outils de travail viennent d'être condamné à des peines allant de 2 à 3 ans de prison, a fait savoir à VOA Afrique les parlementaires élus de Goma, Zangi Butondo. Les jeunes militants de la Lucha manifestaient ce vendredi pour demander l'implication de la CIRGL, la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, une structure régionale composée de 11 pays de la sous-région. Mais quelques minutes après, la police est venue bousculer la presse qui couvrait cette manifestation avant d'embarquer la dizaine de militants qui étaient à sit-in devant les bureaux de la CIRGL Goma. Ces jeunes militants promettent d'autres sit-in si ces pêcheurs, qui sont la plupart des pères des familles, ne sont pas libérés. Charlie Kasereka pour VOA Afrique, Goma.
Et RDC toujours, l'Union nationale de la presse a annoncé imposer un embargo de 6 mois contre le ministre de la Justice Alexis Tambwe. Ce dernier est interdit de passer dans tous les médias du pays après des propos jugés offensants envers des journalistes. Selon Joseph Kasongo Tilunde, le président de l'UNPC, le ministre Tambwe aurait traité des journalistes congolais de minables, misérables, écrivant n'importe quoi pour peu d'argent, pour continuer à accorder la parole à Moïse Katumbi. Fin de citation. Et par ailleurs, deux journalistes congolais de la RL TV ont été libérés en début de soirée après 4 jours de détention arbitraire par un parquet de Kinshasa. Ils avaient été arrêtés mardi au cours d'un reportage sur un conflit foncier à Kinkole. En Éthiopie, le Parlement a approuvé l'amnistie de dissidents politiques, des individus qui font l'objet d'une enquête ou qui ont été condamnés pour trahison, atteinte à l'ordre constitutionnel ou lutte armée. Selon la radio-télévision Fana, proche du pouvoir, plusieurs milliers ont été récemment libérés dans le cadre des réformes menées par le Premier ministre Abiy Ahmed. Recherchés dans une zone désertique du nord-ouest de la Mauritanie, la plupart des membres d'un groupe de 27 migrants sénégalais qui s'étaient échoués sur une plage ont été retrouvés à Ouagadougou. Partis du Sénégal avec une centaine de personnes à bord, leur embarcation qui tentait de rejoindre les Canaries en Espagne a été emportée par la houle vers les eaux mauritaniennes où elle a fini par s'échouer le 16 juillet. Fayez al-Sarraj, chef du gouvernement libyen d'Union nationale, refuse d'installer en Libye des centres d'accueil pour migrants, comme le souhaitent les pays de l'Union européenne. Des détails avec Egia Badou. Après le Maroc, l'Albanie et la Tunisie, la Libye vient également de rejeter l'idée d'accueillir des centres sur son sol. Fin juin, les États membres de l'Union européenne, très divisés sur l'accueil des migrants, ont conclu, dans la difficulté, à un accord dans lequel ils affirment vouloir explorer la création de plateformes de débarquement hors de l'Union européenne pour les migrants secourus en mer. Dans un entretien accordé à un journal allemand, Fayez al-Sarraj se dit absolument contre le fait que l'Europe veuille tout à fait officiellement installer chez nous les migrants illégaux dont on ne veut pas dans l'Union européenne, et affirme que l'argent ne le ferait pas changer d'avis. Il appelle les Européens à exercer plus de pression sur les pays d'origine des migrants plutôt que sur la Libye, où les passeurs ont mis en place leur trafic, profitant du chaos né de la guerre qui a renversé le régime du colonel Kadhafi. Monsieur Sarraj a par ailleurs affirmé que son pays avait besoin davantage de soutien financier et logistique afin de pouvoir être encore plus rapide et efficace dans les opérations de sauvetage. Pour l'heure, les contours du projet restent encore flous et suscitent de nombreuses questions sur la compatibilité avec le droit international. Et au Mozambique, les élections locales auront bien lieu en octobre prochain. Elles étaient menacées par des tensions entre le gouvernement et l'ex-rébellion devenue opposition de la RENAMO.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le reste du monde, nouvelle rencontre annoncée pour cet hiver entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Une initiative saluée par la chancelière allemande Angela Merkel, qui a jugé positif que le président américain invite son homologue russe aux États-Unis. Bagasikoura.
En pleine polémique, après une rencontre lundi au sommet à Helsinki et une conférence de presse pendant laquelle Donald Trump a semblé trop conciliant avec le président russe, selon une grande partie de la classe politique américaine, le président américain a fait savoir qu'il avait invité Vladimir Poutine à Washington à l'automne. Ce vendredi, la chancelière allemande Angela Merkel a dit se réjouir de la reprise des sommets entre les présidents américains et russes et jugé positif que Donald Trump invite Vladimir Poutine aux États-Unis. Le fait qu'aucun président russe ne soit allé aux États-Unis depuis 2005, je crois, ce ne doit pas être la normalité, a dit la chancelière au cours de sa conférence de presse annuelle précédant les vacances gouvernementales. Selon le site internet du département d'État américain, M. Poutine a été la dernière fois à la Maison-Blanche en 2005, mais il a effectué une autre visite bilatérale de travail dans le Maine, dans le nord-est du pays, 2 ans plus tard.
Le président américain Donald Trump a accusé l'Union européenne et la Chine de manipuler leur monnaie et critiqué la Banque centrale américaine pour l'augmentation du coût du crédit. Selon lui, cela dégrade la compétitivité des États-Unis. Et puis en parallèle, le président américain s'est dit prêt à instaurer des taxes punitives sur les 505 milliards de dollars de produits chinois importés par les États-Unis si nécessaire. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a réclamé à l'ONU une pleine application des sanctions contre la Corée du Nord pour parvenir à sa dénucléarisation. Une stricte application des sanctions est capitale, a-t-il insisté, après une rencontre avec le Conseil de sécurité et le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOAfrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Eric Manirakiza.
Le travail a repris ce vendredi chez Total Gabon. Le syndicat a suspendu la grève après 11 jours d'arrêt de travail pour favoriser les négociations sur les conditions salariales. Le groupe pétrolier français emploie quelques 300 personnes au Gabon, dont 60 expatriés. Le Gabon est le cinquième producteur d'or noir en Afrique subsaharienne. Le président chinois Xi Jinping en visite à Kigali, au Rwanda, entre le 22 et le 23 juillet. Le commerce au centre de ce déplacement, comme le précise le secrétaire d'État rwandais à la coopération, Olivier Nduhungirehe.
Il y aura un certain nombre d'accords qui seront signés, une quinzaine d'accords dans un certain nombre de domaines et qui vont renforcer, bien sûr, les relations entre les deux pays, la coopération économique entre le Rwanda et la Chine, mais aussi les investissements.
Nouvelle escalade sur le commerce, le président américain Donald Trump a accusé la Chine et l'Union européenne de manipuler leur monnaie. Ce vendredi, le billet vert baissé face à la devise européenne à 1,1717 $ pour 1 euro contre 1,1580 $ la veille. Depuis avril, le yuan a perdu près de 10% de sa valeur face au dollar. Ceci a avantagé l'exportation des marchandises chinoises sur le marché américain. Il a par la suite menacé Pékin de taxer toutes ses exportations vers les États-Unis. M. Trump a aussi vertement critiqué la politique monétaire de la Banque centrale américaine. La Fed prévoit de relever son taux directeur pour le situer à près de 2,50%. C'est pour maîtriser l'inflation et éviter la hausse des prix.
Et c'est la musique d'ambiance qui annonce le sport. Bonsoir Yacouba Ouedraogo.
Bonsoir Aïssa, bonsoir à tous.
Alors, on connaîtra les pays qualifiés pour la CAN des moins de 20 ans ce week-end.
C'est le troisième et dernier tour des éliminatoires de Niger 2019. Trois matchs au programme demain. Malawi, Afrique du Sud, Sénégal, Congo et Gabon, Burkina Faso. La mission s'annonce compliquée pour les Panthères du Gabon après leur défaite 3-1 à Ouagadougou devant les étalons. Léger avantage pour le Sénégal qui reçoit le Congo à Dakar après un match nul de 2-2 à Brazzaville. Trois matchs aussi dimanche, les Lionceaux indomptables du Cameroun iront chercher un résultat à Bamako face aux Aiglons. Après le 1-1 à l'aller, le Burundi voudra refaire son retard après sa défaite 1-0 face à la Zambie, à suivre aussi Bénin-Ghana.
L'arbitre sénégalais Malang Diédiou a annoncé sa retraite.
Auteur d'une très belle prestation pendant la Coupe du Monde, l'arbitre international sénégalais a annoncé qu'il prenait sa retraite internationale avec effet immédiat. Malang Diédiou était en pleine lumière ces dernières semaines après avoir arbitré trois matchs du Mondial 2018, dont le huitième de finale, Belgique-Japon.
En Europe, l'AC Milan réintègre l'Europa League.
Et oui, alors qu'il s'était qualifié sur le terrain pour la compétition, l'AC Milan en avait été exclu par l'UEFA pour ne pas avoir respecté le fair play financier. Le tribunal arbitral du sport a annulé la sanction, considérant que la santé financière du club est maintenant meilleure. Rappelons que le club lombard a été repris ce mois-ci par le groupe d'investissement américain Elliott.
Neymar a assuré qu'il reste au PSG.
Tout à fait, la star brésilienne a affirmé qu'il jouera avec le club parisien la saison prochaine, mettant ainsi un terme aux spéculations sur son éventuel départ. Écoutons Neymar Junior.
Je reste à Paris. J'ai un contrat à Paris. Les spéculations, je crois que la majorité provient de la presse. Les journalistes ne savent pas quel était mon objectif lorsque j'étais venu à Paris. Je vais triompher avec ce club et j'espère que cette saison sera merveilleuse.
C'était donc Neymar.
Et en athlétisme, Kiprop, Jebet, Ukoff dans une liste de 109 athlètes suspendus.
Oui, le Kenyan Asbel Kiprop, la Bahreïni Ruth Jebet et le Russe Ivan Yukov font partie d'une liste d'athlètes et de dirigeants suspendus par l'unité d'intégrité dans l'athlétisme pour dopage ou corruption. Le Kenya a été médaillé d'or olympique du 1500 mètres. Ruth Jebet, championne olympique, détient le record du monde du 3000 mètres steeple. Le Russe Yukov, lui, a été sacré champion olympique du saut en hauteur en 2012. La liste comprend les noms de 109 athlètes ou dirigeants suspendus provisoirement sur un total de 120 affaires traitées.
Merci Yacouba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Raissa Girondin avec vous pour les dossiers du jour. Au Mali, à moins de 10 jours de l'élection présidentielle, le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta s'est rendu hier à Kidal, dans l'extrême nord-est du pays. C'est une ville contrôlée par les ex-rebelles où il ne s'est pas rendu depuis 5 ans. Bagassi Koura a joint à Bamako le professeur Yaya Konaré pour une analyse.
Ça fait 5 ans que lui, le pouvoir n'a jamais été à Kidal. C'est au moment de battre campagne qu'il prend tous les risques pour aller faire campagne à Kidal. Donc, moi, en tant que Malien, ça ne me dit absolument rien. Et puis, je suis très déçu par rapport à son déplacement. Le moment n'est pas vraiment indiqué.
Mais est-ce qu'on pouvait faire la campagne aussi sans passer partout, et y compris Kidal?
Bon, c'est très bien de passer par Kidal pour faire la campagne. Mais lui, en tant que président de la République, les autres pouvaient avoir quand même un problème pour pouvoir aller à Kidal. D'ailleurs, il y a une candidate qui a été à Kidal. Bien avant lui. Donc, c'est la preuve à suffisance qu'il n'y avait un problème pour lui, aucun problème pour lui de pouvoir aller à Kidal bien avant aujourd'hui.
Alors, on est à une semaine de la fin de cette campagne. Comment est-ce que vous vivez cette campagne? Comment vous appréciez les messages des candidats de façon générale?
De façon générale, les messages des candidats, c'est rejoint. Hein? Mais tout tourne autour des questions de sécurité, questions de stabilité, de développement sur le plan santé, construction des routes. Il y en a qui sont faisables, mais d'autres quand même, ça c'est des super chéris, quoi.
Et vous pensez qu'une victoire dès le premier tour est possible?
C'est pas possible.
Pourquoi?
C'est pas possible. C'est pas que Ibeka ne peut pas gagner, mais vu le nombre de candidats, même on a 24 candidats.
Donc il y aura un morcellement de voix.
Les voix seront réparties et il va être difficile pour un seul candidat d'avoir 51% ou bien plus de 50%. Ça va être très très difficile.
Il a été à Kidal, mais il y a des endroits comme Yuwaru ou d'autres parties du pays qui se plaignent que personne n'est venu les voir, pas seulement Ibeka, mais aussi tous les candidats.
En fait, ce sont des endroits où il y a beaucoup d'insécurité. La préoccupation majeure des gens, ça c'est le problème de sécurité, quoi. Et ils n'ont pas vraiment la tête dans la campagne là. C'est ça qui explique peut-être cet état de fait.
Si on ne mène pas la campagne dans ces régions, comment est-ce qu'on compte tenir des élections dans ces régions?
Moi, je t'ai dit qu'il y a de ces localités là où on ne pourra pas tenir les élections. La fois dernière, nous avons participé à une activité de l'administrement. On nous disait qu'il y a au moins 64 localités où les élections ne pourront pas se tenir. Donc, qu'on fasse campagne ou bien qu'on ne fasse pas campagne, les élections ne pourront pas se tenir ou bien se tiendront difficilement dans ces 64 localités-là.
C'était le professeur Yaya Konaré, joint à Bamako.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVO Afrique, 24h/24.
La démocratie africaine connaît ces dernières années une effervescence animée par les jeunes à travers de grandes mobilisations citoyennes. Ces mouvements ont un impact fort au Sénégal, au Burkina Faso ou en RDC. Réunis à Dakar, ces acteurs veulent unir leurs forces pour avoir un plus grand impact sur l'évolution des sociétés africaines. Reportage du correspondant de VOA Afrique au Sénégal, Sedina Abagué.
Plusieurs dizaines de mouvements citoyens se sont mobilisés pour lancer la première édition de l'Université populaire de l'engagement citoyen. À travers cette initiative, ils veulent s'éloigner des rencontres conventionnelles et créer leur propre espace de réflexion. Fadel Barrow du mouvement Yanamar estime que cela permettra de mieux prendre en compte les préoccupations des jeunesses africaines.
L'idée de cette Université populaire de l'engagement citoyen, c'est pour une fois les jeunesses africaines créent leur propre agenda. Ils ne se retrouvent pas parce qu'ils sont invités ou parce qu'ils sont regroupés pour qu'ils discutent de problématiques qui ne les concernent pas, mais ils sont regroupés autour de leurs propres problématiques, de leur propre agenda et envisagent ensemble les mêmes solutions. Parce que les jeunesses africaines, c'est aussi la particularité des mouvements citoyens, ils ont conscience qu'ils ont le même destin et ils ont ce même destin, ils le construisent ensemble.
Cette première édition de l'Université populaire de l'engagement citoyen permettra également de donner des cours sur les mouvements citoyens, l'histoire et la sociologie des luttes. Ceci pour aider les acteurs à mieux s'organiser et construire des mouvements pérennes. Fred Boma du mouvement Congolais Lucha estime que cette rencontre leur apporte un plus dans leur lutte pour la démocratie.
C'est une occasion en or de rencontrer des dizaines d'activistes qui ont de sacrées expériences, de rencontrer des artistes qui ont aussi une expérience tout autre, et de rencontrer des scientifiques qui ont une connaissance dans ce que nous faisons. Je pense que c'est un grand bagage qu'on fait. C'est aussi
un réseau qu'on construit entre différents activistes, un réseau qui peut être mis à profit lorsqu'on a besoin de coaliser nos forces, lorsqu'on a besoin de faire entendre notre voix au-delà de nos frontières.
Plusieurs pays seront au centre des débats et parmi eux figure Madagascar dont le processus démocratique est en péril, d'après sa représentante à ce forum. Mbolosiana étale les problèmes démocratiques qui secouent son pays et espère que cette rencontre de Dakar permettra aux mouvements sociaux d'être mieux affûtés.
Les problématiques face à la loi électorale, le président de la République qui fait déjà campagne depuis très longtemps, et également les autres partis politiques qui soutiennent les anciens candidats, les anciens putschistes, les anciens dictateurs, qui reviennent encore sur la table et qui font que cette période préélectorale est très tendue et même la loi électorale qui devait bien régir les élections fait beaucoup débat.
Au-delà des revendications institutionnelles, les mouvements sociaux veulent rassembler les énergies des citoyens autour des questions sociales, environnementales et culturelles. Une forme de lutte qu'ils comptent utiliser comme une alternative citoyenne face aux extrémismes meurtriers et à l'immigration clandestine. À Dakar, Seydina Abagui pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
Et cap sur le Gabon, où le gouvernement a lancé cette semaine sur 7 sites une opération de recensement des agents de l'État pour débusquer les fonctionnaires fantômes. Ceux qui jouissent à tort du statut de fonctionnaire de l'État seront radiés et traduits en justice conformément à la loi. Un reportage de Joël Tatou, relaté par Michel Joseph.
50 000 agents de l'État, précisément de la province de l'Estuaire, sont concernés par cette première opération qui vise l'assainissement du fichier salarial de la fonction publique et la mise à la retraite des agents absents pour cause de maladie de longue durée. En plus de ces deux objectifs, l'opération permettra également de préparer les audits des fichiers soldes et fonction publique. Écoutons Jean-Fidèle Otando, ministre du Budget et des Comptes publics.
Je pense que nous avions eu des hommes et des femmes responsables et qui ont compris l'intérêt de ce que nous sommes en train de faire. Voilà pourquoi il y a non seulement cet engouement, il y a aussi cette patience, parce que des gens viennent très tôt.
Tournons-nous maintenant vers Ali Akbar Onanga, ministre de la fonction publique.
L'agent public qui sera présent aura sa rémunération comme il a l'habitude de la recevoir une fois de plus à la fin de ce mois de juillet.
Cette opération consiste à récupérer des bons de caisse après vérification des documents y afférents. Il s'agit notamment de la carte d'identité nationale, de l'attestation de prise de service et de l'attestation spéciale de présence au poste signé du chef hiérarchique de l'agent, du directeur central des ressources humaines du ministère et du secrétaire général du ministère utilisateur. Écoutons Lisa Marie Bangota, fonctionnaire.
Je trouve ça très intéressant parce que c'est très important pour pouvoir avoir une masse salariale qui est plus efficace, qu'on sache exactement qui est là, qui fait quoi. Et ça va aussi nous permettre d'améliorer pour nous-mêmes en tant que fonctionnaires, en fait, finalement, le traitement de nos propres carrières.
Après cette étape, l'agent se rend au stand où est implantée la banque dans la zone où il est domicilié pour présenter son bon de caisse. Son compte crédité, il pourra percevoir son salaire le 25 du mois en cours. Écoutons Nina Rennes-Migola, agent à United Bank for Africa.
Oui, c'est très important parce que vous savez, la banque, quand on parle de la banque, on voit déjà le crédit, les fonctionnaires ont pris beaucoup de crédit. Donc c'est normal qu'on soit impliqué parce qu'il faut qu'il y ait un remboursement de notre côté.
Cet audit permettra de dégraisser les charges salariales qui grèvent le budget de l'État et de redéployer efficacement les effectifs dans différents départements. Par ailleurs, un bureau de réclamation sera mis en place au ministère de la fonction publique pour les retardataires et les réclamations.
I will never play the one above you. I'll play.
They make a summer quick for you. Maybe the other of your hits, they make a summer quick for you. Maybe I pass your style, I say a summer quick for you. You go feel it, man. Baby, make you dance here for me. Make I pay you all my money.
Vendredi, tout est permis. C'était Ginger Me de Peliou Sourou. Merci de nous avoir suivis. Lionel Gaïma, la mise en onde. Sidrak Franklin à la console. Raissa Girondin à la présentation. Excellente suite de programme.
Because of your swag, they make a toilet for you. Maybe not because of your smile, they make a toilet.
Ici Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
Le 9 juillet, le président érythréen Isaias Afwerki et le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed ont décidé de résoudre les différends entre leurs deux pays en signant un accord de paix qui mettra fin à deux décennies d'hostilité. Pendant cinq ans après que l'Érythrée a obtenu par référendum son indépendance de l'Éthiopie, les deux pays ont eu des relations cordiales. Mais en 1998, une dispute frontalière s'est muée en une vicieuse guerre qui a fait plus de 80 000 morts. Les hostilités ont cessé en l'an 2000, mais les deux pays ont maintenu un face-à-face militaire dans le territoire litigieux. En plus de mettre un terme aux hostilités de longue date, un accord de paix aurait d'importants bénéfices pour les deux nations. Un pays enclavé, l'Éthiopie pourrait accéder aux ports érythréens d'Assab et de Massawa sur la mer Rouge, sur l'une des voies maritimes les plus fréquentées de l'Asie à l'Europe en passant par le canal de Suez. Pour sa part, l'Érythrée aurait la possibilité d'améliorer son économie sévèrement mise à mal par la guerre avec l'Éthiopie et bloquée par l'impasse subséquente. C'est un pays isolé dont nombre des ressortissants ont émigré. Les États-Unis se félicitent de l'engagement du 9 juillet pour la paix et la sécurité entre l'État de l'Érythrée et la République fédérale démocratique d'Éthiopie qui met fin à 20 ans de conflit, a dit le secrétaire d'État Mike Pompeo dans une déclaration écrite. Nous félicitons le Premier ministre Abiy d'Éthiopie et le président Isaias Afwerki d'Érythrée pour avoir courageusement mené leur peuple vers la paix, la prospérité et la réforme politique. La normalisation des relations et l'adoption d'une déclaration conjointe de paix et d'amitié entre l'Érythrée et l'Éthiopie permettront à leur peuple de se concentrer sur leur aspiration à des liens politiques, économiques et sociaux plus étroits, a souligné le secrétaire d'État Pompeo. Les États-Unis sont prêts à soutenir ce processus et encouragent toutes les parties à continuer de travailler dans la transparence et la confiance dans les jours à venir. La paix entre l'Éthiopie et l'Érythrée renforcera la stabilité, la sécurité et le développement dans la Corne de l'Afrique et de la mer Rouge.
C'était un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis. Washington, la voix de l'Amérique.